Bien, merci, merci à tous de votre patience d'arriver près du terme du marathon colonial. Et donc pour la dernière étape, je vais aborder le continent qu'on n'a pas encore vu, évidemment. Donc ça va être un tour rapide en Océanie et plus particulièrement en Nouvelle-Calédonie, qui est une colonie française à partir du milieu du 19e, qui reste toujours sous souveraineté française. Donc chez moi, autant vous dire que le colonial, ça va un peu jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai appelé ça ségrégation coloniale, espace commun en Nouvelle-Calédonie, les intimités kanaks d'un petit colon de Koné. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte, je vais reprendre le fil d'une enquête que j'ai menée au début des années 2000 pendant ma thèse sur l'histoire politique d'une commune sur laquelle je reviendrai, qui s'appelle Koné dans l'ouest de la Nouvelle-Calédonie. Travaillant sur l'histoire politique de cette commune, sur la mairie, sur les maires, je suis très rapidement tombé sur l'histoire de Paul Napoarea, qui était le maire kanak qui a marqué le village des années 70 aux années 90. Il a régné pendant à peu près 25 ans. Il était élu territorial, responsable politique indépendantiste kanak. Et rapidement, les vieux colons blancs du village que j'interrogeais m'ont dit « Non mais lui, tu sais, c'était le petit-fils de Auguste Henriot, qui était le maire blanc de Koné. » C'est ce que m'ont dit ces vieux Européens vivant à Koné. C'est également ce que m'a dit la veuve de Paul, que vous voyez ici en photo à gauche, Maria Napoarea, et qui m'a dit très rapidement, bah voilà, tu sais, lui, en fait, son grand-père, c'était le vieux Henriot. Et d'ailleurs, regarde, chez nous, on a le portrait des deux. Donc vous voyez, j'ai fait un zoom hein, en haut de l'armoire. À gauche, c'est la photo de Henriot, et à droite, celle de Paul Napoarea. Alors je me suis dit plusieurs choses. D'abord pendant ma thèse, j'ai un peu laissé ça de côté, hein, je vous le dis. Mais c'est aussi intéressant parce qu'en fait, j'ai pas vraiment travaillé sur l'histoire d'Henriot, mais sur celle de Napoarea, parce que je travaillais sur la politique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et de fait, ces réseaux de socialisation et d'entrée en politique, d'engagement, étaient complètement kanak. Donc c'était pas une question que je trouvais très pertinente, mais je pense que c'est aussi parce que je voulais pas qu'elle soit trop pertinente. Donc j'ai mis ça de côté, j'ai repris ça récemment, en me disant, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire familiale singulière, étrange, qui sort de cette histoire municipale? Ça, c'est, voilà, comment ça se fait qu'on peut avoir un grand-père blanc et un petit-fils kanak? Il y a eu un petit twist à un moment qui s'est passé, de quel ordre? Et en fait, c'est aussi que je pense que, justement, c'est intéressant pour s'interroger sur ce que c'est que la frontière coloniale dans le contexte de Koné, qui est aussi une frontière à la fois raciale, territoriale, comment ça traverse une histoire de famille. Qu'est-ce qui se joue en termes d'héritage, de transmission ou de non-transmission lors de ce dépassement? Et puis, ça nous dit aussi quelque chose, je pense, je pense que c'est un cas qui est bon à penser pour réfléchir à ce que c'est que la frontière, les frontières en situation coloniale, et aussi sur le fait que ceux qui franchissent ces frontières, à la fois les remettent en cause par leur trajectoire même, et en même temps, peuvent contribuer à la renforcer, parce que là, de fait, il y a eu un passage, mais en attendant, tout le monde, on sait toujours qui est blanc et qui est kanak. Il n'y a pas d'autre catégorie qui a émergé. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais essayer de retracer ici, en vous donnant un petit peu des éléments à la fois sur... Bon, ce que je voudrais faire, c'est à la fois retracer, avec les sources qu'on peut, et qui sont compliquées à construire, l'histoire de cette famille, et en particulier l'histoire des sociabilités intimes du quotidien d'Auguste Henriot, qui à un moment donné, eh ben, du coup, a eu des relations particulières avec des femmes kanak, enfin des kanak dont des femmes, voilà. Donc à la fois essayer de retracer cette histoire de sociabilité et de cette ambiguïté des interactions quotidiennes en milieu colonial, et aussi réfléchir au paradoxe, c'est-à-dire au fait que la frontière se maintient malgré son franchissement. Et qu'en particulier dans les histoires, les narrations ultérieures familiales, dans les histoires familiales, on perd la trace de ce passage de frontière. Donc c'est un petit peu cette articulation que je veux faire entre cette histoire au ras du sol, quand elle se passe, quoi, et puis ensuite ces mises en perspective, ces mises en narration historique, ou une autre façon de voir ce hiatus, c'est entre les pratiques quotidienne, ordinaire, et d'autre part les représentations qui sont véhiculées et qui sont transmises au fil du temps. Donc le plan de mon intervention, rapidement, je vais d'abord essayer de vous donner un cadrage colonial global en resserrant peu à peu la focale pour que vous saisissiez, disons, l'émergence des catégories que j'utilise là maintenant, Kanak, Caldoche, Européen, Colon, et pour essayer de comprendre de plus en plus finement les logiques de ce que moi et d'autres auteurs avons appelé en quelque sorte l'apartheid calédonien, puisque ça va être c'est une société coloniale extrêmement ségrégée dans l'Empire français. Et puis ensuite, je reviendrai sur l'histoire de cette famille spécifique de colons, la famille Henriot, l'histoire d'Auguste, de ses sociabilités, et enfin, le troisième point que je voudrais aborder, c'est le destin social de ces expériences transfrontalières, disons, dans les histoires familiales, dans les narrations, pour réfléchir un petit peu à ce qui se joue autour de la frontière. Alors d'abord, pour vous situer un petit peu, la Calédonie a été... une des seules colonies de peuplement de l'Empire français, c'est-à-dire dans laquelle la puissance coloniale n'était pas simplement là pour exploiter les ressources, mais aussi pour créer une nouvelle société européenne locale sur le modèle et de l'Algérie et de l'Australie, globalement. Modèle de l'Australie qui a compté notamment parce que les populations qui ont été envoyées en Calédonie étaient à la fois des colons libres, donc choisissent volontaires répondant au programme d'émigration organisé par les pouvoirs publics, et des bagnards, des colons pénaux, puisque pendant une quarantaine d'années, il y a eu des convois dans la deuxième moitié du 19e qui sont arrivés en Calédonie. Pour mettre en place, très schématiquement, donc, parce que la Calédonie devient colonie française à partir de 1853, donc pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle, pour faire de la place, entre guillemets, à ces colons, venus par vagues successives dans ce territoire des antipodes, des grandes politiques de spoliation foncière ont été mises en œuvre, qui ont abouti, cas unique dans l'Empire français, à l'enfermement des populations indigènes dans des réserves indigènes. C'est assez intéressant, puisque la réflexion administrative des pouvoirs publics qui ont créé ces réserves indigènes venait d'une réflexion qui avait été menée d'abord dans le cadre de l'Algérie, puis finalement pas appliquée, et appliquée dans le cadre de la Calédonie. Donc à partir de la fin du 19e siècle, peu à peu, il y a une division très nette dans le foncier entre les terres réservées à la colonisation et les terres réservées aux populations indigènes. Évidemment, ces terres de réserve ont été délimitées sur les territoires sur lesquels les populations indigènes ont été refoulées au fur et à mesure de l'avancement de la colonisation foncière. Et donc moi, j'ai travaillé sur une de ces zones, la commune de Koné, qui se trouve ici, ce qui correspond dans cette carte à cette zone-là. Voilà. Voilà un petit peu le contexte. Alors, Koné, voici encore la circonscription communale de Koné. Koné a été atteint globalement par l'avancée du front pionnier, qui était un front pastoral. Hein, c'était les éleveurs qui avançaient à partir de Nouméa, qui se trouve au sud-ouest, et puis tout le long de la côte ouest, dans les années 1870. Il y a eu la constitution de grandes propriétés d'élevage dans l'arrière-pays, sur des périmètres non cadastrés. Il suffisait de déposer un permis d'occupation, et c'est comme ça qu'il y a eu d'immenses propriétés de plusieurs milliers d'hectares qui ont été constituées. Les populations indigènes de la zone ont peu à peu été refoulées et placées dans des réserves qui ont... Donc ce mouvement a été progressif et finalement les réserves ont été officiellement instituées en 1900. Donc en gros, très schématiquement, ce mouvement de répartition foncière a lieu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors sur ces réserves indigènes, on a considéré que les nouveaux hameaux qui étaient créés autour d'autorités locales que l'administration reconnaissait comme des chefs, petits chefs et grands chefs, ces populations ou ces hameaux formaient des tribus. Tout ce vocabulaire, réserve, chef, tribu, c'est directement colonial, c'est pas du tout des termes utilisés localement. Donc au bout de cette dynamique de restructuration foncière, dans la commune de Koné, vous aviez donc un espace avec de grandes stations d'élevage et puis 9 réserves dans lesquelles il y avait des tribus. Ce qu'on voit sur la petite carte en haut à droite. Donc je vous l'ai dit, voilà, la constitution de ces tribus et de ces réserves indigènes, en gros, dans les 30 dernières années du 19e siècle. Je passe très vite. Hein. À partir de 1870, donc cette décennie 70, les premières grandes stations d'élevage qui vont donc se pérenniser, même si les titres vont passer de propriétaire en propriétaire, mais jusqu'aux années 1970-1980, il y a encore, au fil d'une histoire de restructuration foncière que j'ai retracée par ailleurs, il y a encore une dizaine de ce qu'on va appeler des gros éleveurs à Koné qui ont des très larges troupeaux et des propriétés de plusieurs milliers d'hectares. À côté de ça, de façon intéressante, 10 ans après, c'est-à-dire une fois, bien que l'espace soit déjà maillé avec quelques grandes propriétés d'élevage, l'administration va créer ex nihilo un centre de colonisation, un village de colonisation pour les quelques familles de colons libres qui arrivent dans la colonie à ce moment-là. Et pendant la décennie 1880, la plupart de ces familles, c'est-à-dire qu'on est sur des flux d'émigration très réduits, hein, la Calédonie, ça reste encore aujourd'hui, il y a moins de 300 000 habitants sur toute la Calédonie, donc c'est quand même pas très peuplé. La plupart des familles françaises répondant à ce programme d'émigration vont être placées à Koné, où donc on a un géomètre qui débarque en 1880, qui fait un plan cadastral, qui fait les lots du village de Koné, et à chaque colon est délivré un lot de village de 10 arts, un lot de jardin d'un hectare, un lot de culture de 4 hectares et un lot de pâturage de 20 hectares. Tous ces terrains deviennent propriété des colons au bout de 5 ans, sous condition de résidence et de mise en valeur. Cette histoire, qui au départ était espérée comme une histoire héroïque de conquête coloniale, va faire un peu pchit, puisqu'il y a plus de la moitié de la cinquantaine de familles qui arrivent dans cette décennie qui va laisser tomber et repartir à Nouméa en quête d'un retour en France ou d'un emploi salarié. Donc, ça ne marche pas à des masses. Et en règle générale, ce qu'on a pu voir, c'est que les familles qui ont réussi, les familles de colons, de petits colons administratifs, puisqu'ils sont venus par ces canaux administratifs qui arrivent à s'installer dans le bled, en gros, mettent en œuvre des stratégies de diversification économique. Il y a des mines qui vont ouvrir dans la région, donc on va faire un peu d'agriculture, un peu de mines, des petits emplois publics, de l'artisanat au village, et on vivote comme ça tant bien que mal. Donc le projet officiel et grandiloquent de France australe, comme le disait le gouverneur, va, vous voyez quoi, l'aventure coloniale. Alors je voudrais un petit peu juste préciser quelque chose sur ce monde social des petits colons administratifs de Koné, qui arrivent donc dans un espace qui n'est pas vierge, évidemment. Il y a des populations indigènes qui sont repoussées dans des réserves lointaines, et il y a le village que ces gens vont construire, vont habiter, vont monter les maisons, etc., ils vont faire les premiers magasins. Et puis, dans l'arrière-pays, entre les réserves au fin fond de la montagne et le village, il y a ces grandes propriétés d'élevage, où il y a un monde un petit peu inconnu, un petit peu interlope. C'est là où il y aura la plupart des enfants de couples mixtes qui vont apparaître dans ce monde de l'élevage qui est ni la scène coloniale pure du village, ni la réserve qui est le village indigène. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces migrants qui viennent à Koné sont passés par des circuits migratoires similaires, qui construisent des positions sociales communes. Ce sont des colons globalement modestes qui viennent en famille, donc avec un couple et des enfants, souvent âgés, qui ont les mêmes espoirs d'ascension sociale par ce type-là de migration coloniale, qui vont être confrontés aux mêmes difficultés, les sauterelles, les cyclones, etc., qui vont être un peu perdus dans ce pays méconnu, et qui aussi construisent une forme de capital symbolique d'honorabilité pionnière, en se distinguant vigoureusement et des bagnards, des colons pénaux. En particulier, il y a un village voisin à 10 km qui est un ancien camp de bagnards. Donc ça, les colons s'en distinguent énormément. Donc pas de mariage, pas de fréquentation avec ces gens-là, surtout pas de mariage, etc. Et puis l'autre figure au poussoir, évidemment, c'est les indigènes, avec cette crainte de l'ensauvagement, qui est un peu monnaie courante dans les contextes coloniaux. En Calédonie, on dit l'encanaquement. Qui va se marquer jusque dans les traces les plus quotidiennes. Ça, c'est une enquête très intéressante qu'a fait Isabelle Maire dans les années 90 auprès des descendants, de ces colons de Koné notamment, où elle a montré que ces colons-là ont sciemment refusé d'apprendre la langue kanak du coin, par exemple, pendant très longtemps refusé de faire les cultures locales, l'igname, taro, etc., mais on faisait des pommes de terre, des haricots, des choux, c'était la France. Les savoirs thérapeutiques kanak, on n'en parle pas, etc. Donc le petit bourg franchouillard qui essaie de se construire, comme on l'imagine, avec ses sociabilités communes aux courses, hein, comme vous voyez là, les courses hippiques, au magasin où on passe boire un coup et discuter, les fêtes municipales le 14 juillet, et aussi et surtout, ce qu'on perçoit dans les généalogies de ce village, des alliances matrimoniales entre eux. C'est-à-dire que dans ce pays composite, étrange, où il y a toutes sortes de gens pas très recommandables, qui se conjugue à un très fort enclavement, hein, puisqu'il y a uniquement une liaison maritime avec Nouméa, mais il n'y a aucune liaison, il n'y a pas de liaison routière jusqu'aux années 30. Dans ce pays un peu complexe, la meilleure stratégie pour préserver cette honorabilité pionnière, c'est encore de se marier avec les gens qu'on connaît, souvent les gens avec qui on a fait le voyage en bateau depuis la France, etc. Et c'est ce qui a formé ce qu'on appelle encore aujourd'hui les vieilles familles de Coney. Quand vous dites les vieilles familles de Coney, ce n'est pas les vieilles familles Kanak, c'est les vieilles familles blanches qui sont là depuis très longtemps. Alors parmi ces gens-là, on a la famille Henriot. Donc je vais un peu resserrer la focale. Qui est une de ces familles de petits colons livres qui arrivent de Beaune en Côte d'Or à Coney en 1891. Il y a les deux parents et il y a une fratrie de six sœurs et six frères, dont l'aîné Auguste a 17 ans quand il arrive et la plus jeune a, je crois, 2 ou 3 ans. Alors vous les voyez sur ces photos-là, sur cette photo qui est prise en 1900, entre 25 et 27, puisqu'il n'y a que la mère qui est là. Le père meurt en 25 et elle meurt en 27, donc forcément c'est par là. Bah, c'est comme ça qu'on date. C'est les photos de la famille, donc c'est pas référencé par un archiviste des anomes. Donc, photo de famille, Auguste, c'est lui là derrière. Ça, c'est le mariage de sa sœur en 1930, Auguste, il est là. Et ça, c'est une photo des frères et sœurs, plus, je crois, un fils et une belle-sœur, un truc comme ça. En 1938, Auguste est là derrière. Alors globalement, c'est des colons modestes. Le père va s'essayer aux cultures, il ne va pas y arriver. Donc 5 ans après, une fois qu'il a obtenu ses terrains, il envoie une partie, il retourne au village, il devient forgeron. Les frères tâtent de la mine, de la culture, de la petite fonction publique, parce qu'apparemment, ils avaient un bagage scolaire relativement élevé, acquis pour les plus vieux d'entre eux en France, grâce auquel il y en a un qui va faire une carrière dans les PTT locales, l'autre, Alexandre, qui est celui-là, va être le secrétaire de mairie de Coney de 1919 à 1962, donc ça va devenir une figure locale. Et puis Auguste, donc l'aîné, lui va faire uniquement de la caféiculture, donc il va avoir une caféerie, comme on dit en Calédonie, sur laquelle il va vivre tout le temps, mais à côté de ça, il va avoir une ascension politique importante, puisqu'il va rentrer à la mairie en 1908, il va être élu, il va être adjoint au maire en 1918 et il devient maire en 1920. Et là encore, il va rester maire de 20 à 25 puis de 35 à 46. C'est un des plus longs maires de Coney. Il rentre aussi à la Chambre d'agriculture en 1920 jusqu'à l'après-guerre et il va même, pendant la guerre, être au sein du conseil d'administration qui est quelques représentants de colons auprès du gouverneur. Donc Alexandre et Auguste ont une trajectoire locale de petits notables par la politique, l'engagement dans les fonctions officielles municipales, je pense grâce à ce capital scolaire, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, qui était un petit peu au-dessus de la norme. Les sœurs se marient très tard. Sur les trois sœurs, il y en a une qui se marie jamais, et les deux autres se marient quand même très tard. Donc elles passent une bonne partie de leur vie, voire la totalité de leur vie, à rester avec leurs parents, à faire tourner l'économie domestique, le jardin, etc. Voilà un petit peu le... Et il y a eu, ce qui est aussi intéressant, il y a eu très peu d'enfants ensuite. Donc vous verrez que l'enjeu de la descendance est assez frappant. Alors maintenant, j'arrive au moment clé, où j'ai pas d'image autre que celle-ci, puisqu'il y a à vous proposer, mais c'est quand même intéressant. En 1900, donc 10 ans après leur installation, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc le bourg de Coney, créé en 1880, est là. Mais en 1900, le gouverneur, qui est plein d'espoir à l'époque, le gouverneur Feuillet, va ouvrir ce qu'il va appeler un centre de colonisation secondaire à 5 km de là, dans le lieu dit Baco, ici, où donc on va créer, comme vous voyez, de nouveau un nouveau plan cadastral avec des petits lots de villages et des lots de culture. C'est aussi à cette époque-là qu'est créée, quasiment au même endroit, la réserve indigène de la tribu de Baco. Alors, ce plan cadastral ambitieux, comme souvent en Calédonie, ne va pas être suivi dans les faits, c'est-à-dire que finalement, il n'y aura que très peu de colons qui vont s'installer là. Mais il y aura Auguste qui va s'installer sur le lot de culture numéro 5, qui va faire sa maison sur son lot de culture, et c'est là où il va faire sa crèferie. Donc il habite ici à partir de 1900, ici on se trouve à peu près à 5 km du village, mais par contre à vol d'oiseau on est à moins de 500 mètres de la réserve indigène, qui est une réserve extrêmement densément peuplée à l'époque. Évidemment, tout le déséquilibre colonial en Calédonie s'est beaucoup joué dans l'espace, puisque les Kanaks étaient parqués dans de petites réserves, en partie celle-ci était vraiment minuscule, alors que les colons avaient des grandes surfaces à côté. Alors c'est un endroit un peu spécifique, puisque de fait, on n'est plus dans l'entre-soi villageois blanc de Kone Village, on est dans une de ces zones grises qui, à certains égards, fait penser aux stations d'élevage de l'arrière-pays. On côtoie très directement les indigènes qui sont à quelques encablures. Voilà. Donc, il va se passer des choses sur cette zone. Crise. Bon. Auguste s'installe, il fait du café, il va y rester tout le temps. Pour l'exploitation du café, les colons bénéficient à l'époque de plusieurs mesures de mise au travail contrainte des Kanaks, des réquisitions au moment des récoltes, tout un système juridique sur lequel je ne vais pas rentrer, l'engagement, les prestations, etc. Et Auguste va bénéficier chaque année de la venue des Kanaks de la tribu voisine de Bako ici, et aussi de la tribu de Tiaoué qui est en amont, ici il y a une rivière si vous voulez. Les gens de Tiaoué et de Bako viennent, contraints et forcés, faire le ramassage du café tous les ans sur sa propriété. En 1902, il a un fils qui naît, qui s'appelle Louis, dit Loulou, dont la mère, qui s'appelle, selon les sources, Marguerite, Alice, Balasia, Placia, je passe, Goromoto. Cette femme est originaire de Poya, qui est une commune qui est 50 km plus au sud, et elle vivait probablement à Bako ou à Tiaoué. C'est une autre histoire, il y a une rébellion, une grande guerre en 1878, des gens de Poya ont été expulsés, et puis en 1900, à la même époque, certains d'entre eux ont été replacés non pas à Poya, mais à Tiaoué et à Bako. Alors, en 1902, il a un fils qui naît de cette femme, je suppose, enfin, on ne sait pas comment il les a rencontrés, est-ce qu'il est allé la chercher à Poya, qui est à 50 km en bas. Je pense plutôt, à mon avis, ce qui est assez vraisemblable, c'est qu'elle a participé à ces campagnes de récolte en étant basée à Bako ou à Tiaoué, et que c'est comme ça qu'il a eu un fils avec cette femme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette relation? C'est difficile à savoir. Est-ce que c'était... bref, j'y reviendrai. En 1910, il a un deuxième enfant qui s'appelle Suzanne, et dont la mère n'est pas la même que celle d'avant. C'est une femme qui s'appelle Marcel Tchouke Neniko Weko, qui est aussi une femme originaire de Poya, également migré dans ses tribus de Tiaoué ou de Bako. Et avec cette femme-là, par contre, il va vivre plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'ils vont vivre ensemble sur la propriété avec les deux enfants. La première femme a disparu du tableau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est morte? Je ne sais pas du tout. Mais Auguste va vivre avec cette Marcel pendant 50 ans, jusqu'à sa mort en 1958, avec ses deux enfants qui grandissent. Et qui grandissent avec lui sur la propriété. Donc, on se trouve à partir de 1900 et jusqu'à 1950... sur ce lot numéro 5 de Bako, on a un espèce de foyer mixte. Alors voyez, entre parenthèses, que ce que je vous dis là est plein d'incertitudes, plein de points d'interrogation, ce sont des pistes, parce que précisément cette histoire-là n'est pas prise en charge dans les histoires familiales ultérieures. Donc il a fallu creuser, aller interroger les gens, et aller voir les registres de baptême pour dénicher le nom de ces femmes, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver ça, l'état civil, mais qui n'était pas établi avant 1935, puis 1951, etc. Mais c'est en soi intéressant de penser aux difficultés de production des sources quand on a affaire à des histoires familiales qui sont dominées, quoi. Voilà, qui ne sont pas intégrées dans le récit dominant de l'histoire de la famille ou des histoires familiales. Ils vivent sur ce lot, Auguste, Marcel, les enfants, également le frère et la sœur de Marcel qui viennent souvent là, des gens de Tiaoué et de Bako qui viennent ramasser le café. Il semblerait, d'après les entretiens que j'ai faits, que ces gens-là, dans ces cas-là, ils s'installent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur la propriété. Certains m'ont dit, mais tu sais, le vieux Baptiste qui est né en 1945, il est né sur la propriété, ce qui voulait dire qu'il y avait quand même des formes d'installation semi, enfin je sais pas, temporaire, permanente. L'enquête est en cours, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il se passait il s'est passé quelque chose, quoi. J'ai pu interviewer en 2002 Suzanne, la fille d'Auguste, qui avait 92 ans. Ce qui est terrible, c'est quand vous réécoutez un entretien a posteriori, c'est que vous voyez à quel point, évidemment, comme quand vous interrogez un matériau, une archive, je veux dire, votre questionnement influe sur le matériau que vous avez. Alors à l'époque, moi, je travaillais sur l'histoire politique municipale, je travaillais pas sur l'histoire familiale, de métissage, etc. Donc elle m'a raconté des choses, mais je regrette amèrement aujourd'hui, et ce sera comme ça jusqu'à la fin, de pas lui avoir posé plus de questions sur les choses qui m'intéressent aujourd'hui. Mais forcément, il y a 15 ans, ça m'intéressait pas. Néanmoins, dans ce que j'ai pu saisir de cet entretien, elle mentionnait avec une tendresse nostalgique qui était assez frappante. Quand elle parlait d'Auguste, elle disait toujours papa, mon papa, ce qui est quand même un terme qui connote une forme de, à minima, je pense, d'affection. Elle me racontait, mais en même temps, c'est difficile de savoir jusqu'où ce qu'on peut faire dire et ce qu'on peut pas faire dire aux sources, hein. Par exemple, j'ai pas la moindre idée de comment ça se passait entre Auguste et Marcel. Je sais pas si c'était un couple heureux, pas heureux, s'ils s'aimaient, s'ils se tapaient dessus, j'ai pas la moindre idée. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était pas une passade. C'était pas une relation sexuelle. Or, c'est dans la brousse ou un viol. Enfin, c'était peut-être un viol conjugal, ça on sait pas. Or, c'est intéressant parce qu'en général, ce qu'on raconte en Calédonie des enfants métis, c'est des femmes prises de force. Et des passades sans lendemain non reconnues par leur père. Ce qui est, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais là, dans ce cadre-là, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une relation qui a duré 50 ans, ce qui est quand même assez intéressant. Suzanne, donc la fille, me raconte qu'elle et sa mère parlaient à Auguste en païti, la langue kanak du coin, et que lui répondait en français, ce qui signifie qu'il avait une compétence linguistique dont je vous ai dit précédemment qu'elle était extrêmement rare, voire inexistante, chez les autres petits colons libres de Conné. Donc c'est assez troublant. Elle me racontait aussi les balades à la mer dans la voiture du papa, qu'elle rigolait en me disant, mais lui il se plaignait, il disait qu'il faisait trop chaud alors qu'en France ils avaient froid, mais ici il fait trop chaud, etc. Bref, des traces d'une forme d'intimité ordinaire, intéressante. Et puis j'ai aussi trouvé d'autres traces archivistiques. Il y a eu dans la région une guerre en 1917 et il y a eu Auguste Henriot a fait une déposition lors du procès qui a suivi cette guerre dans laquelle il raconte qu'un peu avant l'ouverture des événements, il avait discuté avec un des chefs de la tribu qui lui avait dit, qui avait entendu les nouvelles, qui avait dit, bah tu vois, les Allemands sont en train de bouffer les Français, vous allez bientôt être foutus à la mer, etc. Et lui, il avait dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes, Point D. À un autre moment, il dit, Point D est venu chez moi pour me demander des balles. J'ai dit, mais pourquoi faire? Il m'a dit, c'est pour tuer des cochons. Bon. Ça signifie aussi qu'il avait des relations avec ces gens-là, alors que précisément à l'époque, il y avait, je vous l'ai dit, l'entre-soi villageois était extrêmement cloisonné, et c'était uniquement les gendarmes en général qui faisaient le lien avec les chefs de tribu. Sauf que lui, Auguste Henriot, avait ce lien, en particulier avec ce chef dont la femme était originaire de Baco. Donc il y a comme ça des... Et puis il y a d'autres récits qui émergent. Bref... Ouais, ok, j'ai presque fini. Ou pas, mais c'est pas grave, je m'arrêterai. Ce qui émerge de ça, c'est un paradoxe entre la figure d'un espèce de notable local qui est maire, qui occupe les responsabilités politiques, et puis une vie domestique, une intimité très condamnable au regard des critères de l'honorabilité pionnière. À partir de là, dernier point, je vais passer très rapidement, ce que je souhaite explorer maintenant, c'est justement ce hiatus entre ces pratiques familiales mixtes, ces zones grises, et puis la suite de l'histoire ou la suite des histoires où chacun, finalement, va être assigné dans son camp. Du côté de la descendance kanak d'Auguste, je vais très vite, donc il ne va pas reconnaître légalement ses deux enfants. Ça, c'est Suzanne, à gauche, et là, Loulou, c'est lui. J'aurais montré la photo et ils m'ont dit oui, c'est lui. Bon. Il ne va pas reconnaître ses enfants, mais il va les élever jusqu'à l'âge adulte. Ce qui est très étonnant, donc dans un entre-deux étrange qu'il faut essayer de contextualiser. Du point de vue de l'état civil, est définitivement établi pour les Kanaks en 1954. Ils sont devenus citoyens en 1946, ils vont vraiment exercer le droit de vote au milieu des années 50, donc il faut établir un état civil. À partir de 1954, Loulou apparaît comme Louis Napoaria. Mais précédemment, il est, parce qu'il est catéchiste au service des missionnaires, il y a un courrier de l'archevêque au gouverneur qui dit ben, « on aimerait voir reconnaître le droit de vote à un de nos catéchistes, Louis Henriot ». Et il a effectivement le droit de vote au tout début. Parmi, il y a une toute petite minorité de Kanaks qui ont le droit de vote, qui sont notamment les catéchistes. Et dans les listes électorales de 51 à 52, il apparaît comme nom de famille Loulou, prénom Henriot. Vous voyez le mixte. Ses enfants, dans les registres, les premiers registres d'état civil qui sont établis à partir de 1935, ils apparaissent, par exemple, le fameux maire Kanak, sur son acte de naissance, il y a écrit Paul, prénom Paul, nom de famille Loulou, reconnu par son père Loulou Henriot, et sur l'acte, ensuite, le Loulou est rayé, et on rajoute Napoaréa par décision de 1954, etc. Donc il y a un basculement. Bon. Il y a aussi un basculement sur le fait qu'ils vont être adoptés, je passe très vite, mais par un homme Kanak, Patrice Wé Napoaréa, de la tribu de Tiaoué. Bon, voilà. Alors, et ensuite, bon, c'est la descendance. Je passe très vite, je suis désolé, j'ai plein d'autres choses à vous raconter. Mais donc, au fur et à mesure, et notamment par cette entrée dans l'état civil et l'administration, ils vont basculer complètement du côté Kanak. Suzanne va être mariée à un homme Kanak, puis un deuxième, elle va vivre en tribu, ses enfants seront Kanak. Etc. Loulou, quand il commence à travailler au service des missionnaires dans les années 20, dans la correspondance missionnaire, le curé de Conné dit « On vient d'employer un garçon métis, Loulou H, pour ne pas le nommer. » Donc c'est marrant, c'est qu'il est effectivement identifié avec la catégorie métis, mais comme je vous le dis, à partir des années 50 et de la construction de l'état civil, il passe définitivement du côté indigène. Et donc là, vous avez Paul, le fils de Loulou, qui va être le maire, le frère de Loulou, Bernard, qui est encore vivant, les petits-enfants de Bernard. Donc ici, c'est Loulou et sa descendance, et là, Suzanne et sa descendance. Ce qui est intéressant du côté de la famille blanche, c'est qu'il y a un déni pendant très longtemps de cette histoire-là. Auguste, de son vivant, sur toutes les photos de la famille que j'ai pu consulter, de la famille Henriot, puisque j'ai vu là, en gros, l'héritière de cette famille, il n'y a pas une photo avec les enfants Kanak, avec lesquels ils vivaient pourtant au quotidien. Toutes les photos de famille, comme celle que vous voyez là, même ça c'est pour les 80 ans d'Auguste ici, là c'est une famille avec un peu le début de la descendance, n'est-ce pas? Comme vous voyez, c'est plus blanc que blanc. C'est aussi très intéressant que lui, en tant que maire et responsable politique, il va être un grand porte-parole du renforcement de la mise au travail forcée des Kanaks, donc un côté très, exploitation coloniale très très forte. Il y a aussi des témoignages quand il est maire que j'ai recueillis par des Kanaks, qui me raconte que quand il était maire, il y avait une fête à la mairie, il y avait une corde que les Kanaks et les Javanais n'avaient pas le droit de franchir. Donc c'était vraiment fête réservée aux Blancs. Et c'est assez intéressant, cette forme, un petit peu comme si il était, enfin c'est une hypothèse, hein, mais d'autant plus incité à réaffirmer l'importance de la frontière raciale, de la color bar, quoi, qu'il était lui-même, parce que c'était su par tous les vieux colons de Conné, puisqu'ils m'en ont même parlé à l'époque, il était su comme étant un peu déviant. Donc je pense que dans ces pratiques politiques de représentation, il accentuait d'autant plus ces questions-là. C'était peut-être aussi un espèce de clivage interne à sa propre personne. Hein. Ça, on ne peut pas aller... voilà. Bon. Ses frères et sœurs étaient complètement aussi dans le déni. À la fin de sa vie, il est malade, il retourne dans le domicile familial, et sa petite-fille, celle-ci... pardon, elle, qui est la fille de Suzanne, me raconte que ses tantes blanches refusaient d'entendre parler de la famille, donc il y avait un gros clivage. À sa mort, ici, évidemment, il n'a pas reconnu ses enfants, donc tous ses biens sont allés à son frère, Alexandre. Et non seulement d'un point de vue légal, évidemment, qu'il n'a rien transmis à ses enfants, mais même en termes pratiques, dès sa mort, Marcel, sa conjointe de plus de 50 ans, a été virée de la maison. Et elle est allée vivre avec sa fille Suzanne en tribu Kanak. Elle est morte en Kanak, enterrée chez les Kanak, et c'était terminé. Et puis dans l'historiographie ensuite, alors dans les années 1990, il y a un nouvel immeuble qui a été créé à Conné qui s'appelle l'immeuble Henriot. Il y a eu une cérémonie en grande pompe, un article dans le journal, pas un mot, donc en l'honneur d'Auguste Henriot, figure municipale, pas un mot sur sa famille Kanak. Et puis à la fin des années 90, il y a un bouquin, vous savez, dans ces pays un peu comme en Australie, etc., il y a des grandes sagas, il y a donc un bouquin qui s'appelle Saga calédonienne sur l'histoire des familles. Il y a la saga Henriot qui apparaît, qui est rédigée par le petit-fils d'un frère d'Auguste et sa femme qui sont des amateurs généalogistes et qui commencent à s'intéresser à l'histoire. Mais, alors ici, ils ont mis un arbre généalogique simplifié de la famille. Vous avez le nom des gens, vous avez la principale descendance avec le nom, les années de naissance. Et puis là, vous avez Auguste, un tiré, deux enfants, c'est tout. Pas de femme, pas de nom. Et dans le texte, je vous cite quand même parce que c'est bon, parce que vous voyez, c'est un peu romancé, etc. Le texte raconte Auguste s'amourage de Céline, la troisième fille de Denis-Auguste Chazal, un surveillant militaire originaire de la Drôme. Mais ce dernier lui refuse la main de Céline, qu'il juge trop jeune. Auguste restera célibataire par dépit. Il aura une liaison avec deux Mélanésiennes et un enfant de chacune d'entre elles. Merci, bonsoir. Donc, ni nom, ni rien. Et c'est effectivement, là, on sent tout le préjugé de la passade... alors que de fait, il a vécu 50 ans avec cette femme, il a élevé ces enfants-là, et donc il ne va pas rester célibataire en pratique. Ça va changer avec... Bon, je suis obligé d'aller très vite, hein, j'arrête. Ça change dans les années récentes avec Evelyne Henriot, qui va donc découvrir cette histoire, d'une part des vieux colons, qui est donc une amateur de... elle est mariée à la famille Henriot, donc elle n'est pas directement impliquée. Des vieux colons de Conné vont lui dire, mais tu sais, Henriot, il a vécu avec des Kanaks. C'est elle qui va rédiger cette saga Henriot. Elle va, lors de l'inauguration de ce fameux immeuble Henriot, comme elle et son mari sont des Henriot, ils y vont. Il y a Paul Napoaria qui est là à ce moment-là. Et ils vont lui dire, dis donc, ça y est, on est au courant, laisse tomber. Alors que lui n'était pas très content. J'aurais voulu en parler, mais j'en parlerai pas, tant pis. Voilà, donc, et elle, par exemple, va garder dans ses archives, vous voyez, l'article pour le centenaire de Suzanne. Et article qui va mentionner le fait qu'elle a une grande famille, notamment dans la famille Henriot, la Kanak, la fille d'Auguste. Donc il y a quelque chose qui se noue. Alors, sur ces rapprochements, cela dit, et ce sera ma conclusion puisque j'ai outrepassé le temps, qu'est-ce qui reste de ça? Alors, je vous l'ai dit, côté blanc, du côté d'Evelyne aujourd'hui, de la famille Henriot, il y a un intérêt nouveau qui correspond à aussi un changement de paradigme dans la société calédonienne qui est en voie de décolonisation, où désormais se revendiquer soit d'un ancêtre Kanak, soit d'un lien familial avec les Kanaks, ce qui était pendant très longtemps un stigmate, aujourd'hui c'est plutôt un élément symbolique de fierté ou en tout cas de légitimité d'enracinement dans le pays. Donc c'est beaucoup plus mobilisé depuis 10-20 ans en Calédonie que ça l'était à la période précédente. Donc c'est pas très étonnant qu'elle ait exhumé cette histoire, même si, et c'est assez intéressant puisque j'ai renoué les liens avec ces gens-là que j'avais rencontrés il y a 15 ans l'année dernière pour faire cette enquête, très intéressés, etc., mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré, ces deux femmes se sont rencontrées en particulier, parce que c'est un peu les deux porteuses de ces deux histoires, ces deux femmes alliées, hein, deux veuves en l'occurrence, mais elles se fréquentent, voilà, bon, ok, c'est cool, on a vu le lien, mais il faut faire attention, on ne va pas se laisser envahir par les cousins, etc. Evelyne, l'air de rien, elle se plante complètement sur l'identité des deux femmes d'Auguste, alors même que c'est une grande spécialiste de la généalogie, donc elle n'a pas vraiment fait l'enquête, donc ça l'intéresse, voilà, c'est cool, mais sans plus. Côté Kanak, Paul Napoaria me raconte sa veuve, et était extrêmement réticent à toute cette histoire, il ne voulait jamais en entendre parler, alors pourquoi? Peut-être parce que ça menaçait leur position dans la tribu, parce que chez les Kanaks, ce qui compte, c'est une logique patrilinéaire, donc lui, son propre père était adopté chez les Napoaria, mais... il pouvait être facilement dans le contexte local délégitimé en tant que fils de blanc parce que passant par le père, sa carrière politique territoriale de leader, figure dirigeant indépendantiste était peut-être aussi une question importante qui faisait qu'il voulait pas en parler. Il y avait peut-être d'autres raisons plus personnelles, j'ignore complètement. Maintenant, depuis sa mort, la mairie a donné le portrait d'Auguste à sa veuve, elle l'a mis là-haut, toute la famille est au courant. Ça les fait marrer. Ils m'ont accueilli à bras ouverts pour en parler. Néanmoins, sans plus non plus. C'est-à-dire que l'air de rien, ils y sont quand même relativement indifférents. Finalement, chacun reste aujourd'hui soit blanc, soit canaque. Et à mon avis, ça dit un petit peu quelque chose, malgré tout, de la force de cette frontière qui a été complètement naturalisée au fil du temps. Et malgré ce franchissement, ça rebat pas outre mesure les cartes aujourd'hui. Voilà. Merci.